grâce de Dieu, bien nous sommes là et on peut bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Le Seigneur est bon et fidèle. Et nous voulons également être de bons serviteurs et de fidèles serviteurs à l'image du Seigneur. Donc, bonsoir à vous tous. Merci d'être là. Et pour ceux qui vont nous écouter en rediffusion, eh bien, soyez bénis également et que cette parole soit fraîche dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos vies. Nous allons prier. On va remettre cet temps des mains du Seigneur et par la suite, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Parce que Seigneur, en ton nom, il y a le pardon, il y a la délivrance, il y a le salut, il y a la vie éternelle, il y a la paix, la joie, l'amour, il y a la justice. Seigneur, en ton nom, nous avons tout, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Merci, Seigneur, d'être parmi nous. Merci, Seigneur, de nous accompagner, de nous inspirer, de nous transformer, de agir dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole qui est efficace, qui est précise, qui est précieuse, qui est puissante, Seigneur. Qu'elle puisse également nous transformer, nous renouveler aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous nous approchons de toi, tu t'approches à nous. Seigneur, parle à nos cœurs, enseigne-nous davantage. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur, nous parler dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais partager tout de suite. Donc, on va pouvoir rentrer dans ce que sera, dans le fond, l'enseignement de cette semaine. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'échec, de face à l'échec. La semaine dernière, on parlait de quand on est sous la pression. Brièvement, si on fait un petit retour là, sur la semaine dernière, eh bien, on disait que en présentant dans le fond Jésus lorsqu'il est à Gethsémani et qu'il lui-même est sous une grande pression, que lui-même se retrouve dans de grandes angoisses, en saisie de frayeur, il cherche le réconfort, il cherche la paix, il cherche la conviction, il cherche la confirmation, il cherche l'approbation, la volonté de Dieu dans la prière. Et la prière est la réponse de Jésus quand il est sous pression. La prière lui permet de continuer son mandat malgré tout ce qui est devant lui, tout ce qui est sur, qui tombe sur ses épaules. Et bien des fois, nous avons de la misère à suivre ce modèle-là, à suivre les pas de Jésus. Et lorsque nous nous retrouvons dans une situation difficile, lorsque nous nous retrouvons sous pression, on ne va pas à la prière. On ne va pas chercher notre réponse, notre solution, notre sortie de secours dans la prière. On va aller vers d'autres choses. On va aller par des méthodes ou des moyens humains. Et non pas à des moyens divins. Et même certains arrêtent de prier parce qu'ils sont contrariés du fait qu'ils se retrouvent dans ces situations-là. Eh bien, ils se fâchent contre Dieu et là, ben, ils arrêtent de prier. Ils coupent la communication avec Dieu. Et une question qui nous avait été adressée était: quelle est notre réaction face à la pression? Comment est-ce qu'on se comporte lorsque nous nous retrouvons sous pression? On a parlé un peu de la prière, puis on a dit que la prière, c'est bien des choses, mais c'est entre autres de chercher Dieu et de chercher Dieu dans n'importe quelle situation. Il y a certaines personnes qui vont aller à la prière, qui vont utiliser le moyen de la prière seulement lorsque ça va mal, seulement lorsque les choses vont pas selon leur attente. Ou seulement lorsqu'ils ont un besoin ou quand ils veulent quelque chose. Mais quand ça va bien, on oublie Dieu, on va plus à l'église, on lit plus la Bible, on est correct. Dieu est là juste quand les choses vont mal, lorsqu'on a un besoin. C'est lorsqu'on on devient spirituel et chrétien, tout ça. Il y en a. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, malheureusement. Et la prière, dans le fond, c'est ça, c'est chercher Dieu en toutes circonstances. Quand c'est une belle journée, comme aujourd'hui, une belle journée ensoleillée, et comme quand on a une tempête et un tsunami et un tremblement de terre qui nous tombe dessus en même temps. La prière, c'est également amener toutes choses sous l'autorité de Christ. Parce qu'on dans la prière, on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on amène tout sous son autorité. On place tout sous son autorité. On recommande notre sort à l'Éternel. On recherche la volonté de Dieu. On amène le ciel sur la terre. Tout ça, c'est possible et réalisable à travers la prière. Et Jésus prie, la prière que Jésus fait à Gethsémani, Jésus prie afin de pouvoir faire la volonté de Dieu malgré la pression, de pas craquer, mais de pouvoir continuer avec le mandat qui lui a été donné. Et là, je parle Jésus humainement parlant, en étant homme, il devait mourir. Et il le savait, et il a prié pour pouvoir continuer à faire la volonté de Dieu, même sous l'énorme pression qui était sur lui. Et combien de fois nous également, lorsque nous sommes dans des difficultés, ou plutôt pas comme Jésus, mais qu'on fait le contraire, dans le fond, que lorsque nous sommes dans des difficultés, la dernière chose à laquelle on pense, c'est de faire la volonté de Dieu. La première chose qu'on pense, c'est comment est-ce que je peux me sortir de ce pétrin-là ou de cette situation-là. Mais rares sont les fois où est-ce que nous allons prier de façon à, Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation-là? Et aide-moi, Seigneur, à continuer à faire ta volonté, même dans la situation dans laquelle je me trouve. Et donc, bien des fois, on oublie l'importance de la volonté de Dieu en tout moment et en tout lieu. Et une autre question nous était adressée pour réflexion, dans le fond, et c'était est-ce que nos prières sont conformes à la volonté de Dieu? Tu vois, il y a un travail, un exercice de conformité, là, par rapport à la volonté de Dieu. Qui doit être fait et on doit se poser cette question-là. Est-ce que ma prière est-elle conforme avec la volonté de Dieu? On a vu par la suite que lorsque Jésus, après avoir prié, après avoir lui prié pour avoir la possibilité de continuer à faire la volonté de Dieu, c'est là où est-ce qu'un ange est venu pour le réconforter. Et donc, la réponse de Dieu va toujours venir. Lorsque nous prions et lorsque notre attitude face à une situation demeure de faire la volonté de Dieu. Donc de rester dans son plan, de pas s'en éloigner. Mais lorsqu'on décide de rester dans la volonté de Dieu, Dieu va toujours nous aider dans cet engagement-là, même au milieu des difficultés, même au milieu de la tempête. Pardon, je cherche ma bouteille d'eau. Voilà. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va lire deux passages, plusieurs versets, toujours dans Marc 14. Je pense qu'il y a encore quelques enseignements, des choses qu'on peut retirer, des événements qui précèdent, dans le fond, la crucifixion pour toute personne qui veut servir Dieu. Une personne qui veut servir Dieu doit être en mesure de pouvoir continuer à servir au milieu de la pression ou sous la pression parce que Jésus est ce modèle-là et il nous montre comment est-ce qu'on peut passer à travers et supporter les difficultés. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a aussi un autre volet dans tout cela qui est très propre à notre nature humaine et c'est l'échec. Et on va en parler parce que les disciples dans ces moments sombres de la vie de Jésus, eux ont eu aussi des moments sombres à vivre à cause de leur échec personnel. Donc, je vous invite à ouvrir dans Marc chapitre 14 Et on va lire du verset 43 au verset 52 et par la suite du verset 66 au verset 72. Donc je lis pour vous. Marc chapitre 14. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sûrement. Et dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. On va aller maintenant au verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, Celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, Certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en réfléchissant, il pleurait. Donc, il s'est avéré que Pierre était plus productif que le coq. ce qu'on vient de lire ici, oui, c'est l'arrestation de Jésus, et c'est lorsque Jésus, dans le fond, est amené dans la cour du souverain sacrificateur. Mais on parle également de ce qui se passe avec les disciples. On donne quelques informations de ce qui se passe avec ceux qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans, ceux qui ont été témoins de miracles, de prodiges, de signes extraordinaires. Ces mêmes personnes-là ont aussi vécu, des moments difficiles. Ils auraient également été exposés à une certaine pression à ce moment-là. Et de ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont tous échoué. Ils ont tous, fait face à un échec. Et on va en énumérer quelques-uns. Premièrement, il y a la trahison de Judas, l'un des disciples même de Jésus, qui dont son cœur a été saisi par le diable pour exercer cette trahison-là. Et là, vous me direz, ouais, mais c'était dans le plan de Dieu. Oui, mais il y a quand même eu cet échec-là de la part de Judas de le trahir, un des disciples de Jésus lui-même. Pierre, donc, on voit qu'il y a un des disciples qui prend une épée et frappe un serviteur et lui coupe l'oreille. Dans d'autres passages, on voit que c'est Pierre qui prend pardon, l'épée. Et donc, Pierre qui, dans cette situation-là, cherche à répondre à la violence par de la violence. Donc, il choisit la violence pour répondre à la menace, à une menace qui était violente aussi, qui était agressive parce que ben, une multitude de personnes se sont présentées là avec des épées et des bâtons. Donc, le fait de choisir la violence pour de la violence était constitué, et encore aujourd'hui, se constitue comme une erreur, comme un échec, comme quelque chose à ne pas faire. On voit également que tous abandonnent Jésus dans son heure la plus noire. Tous prennent la fuite. Tous ceux qui étaient fiers, probablement, qui voyaient comment les foules suivaient Jésus et comment les foules touchaient Jésus, ils se retrouvent carrément dans un autre scénario où les gens qui sont là veulent pas, ben, ils veulent toucher Jésus, mais ils veulent le toucher pas pour du bien, pour du mal. Et donc, ils ont craint pour leur vie et ils ont tous abandonné Jésus. Et ils ont tous pris la fuite. Par la suite, dans le deuxième passage que nous avons lu, eh bien, on voit Pierre qui renie le Seigneur à trois reprises. Alors que lui-même disait, non, Seigneur, je vais aller avec toi jusqu'à la mort. Bien, eh bien non. Pierre a quand même suivi le Seigneur, mais il s'est montré comme quelqu'un qui ne le connaissait pas. Et il a même démontré des injures et des imprécations, genre pour essayer de démontrer que il n'était pas l'un de deux et qu'il parlait pas comme l'un d'eux. Et ce qu'on voit pas dans ce passage, mais dans un autre passage, dans Luc, chapitre 24, on voit que deux des disciples quittent le groupe. On a dit, c'est fini. On n'a plus rien à faire ensemble. Donc, deux d'entre eux quittent le groupe et empruntent le chemin vers Emmaüs. De là, on peut ressortir quelques éléments, quelques causes qui ont amené l'échec dans la vie des disciples. Premièrement, l'amour pour l'argent. Judas était le trésorier et à plusieurs reprises dans la vie, dans les évangiles, on voit l'importance que Judas donne à l'argent plus qu'à Jésus, plus qu'à d'autres choses. Et donc, l'amour pour l'argent a amené un échec dans le cas de Judas. Il y a la colère également, le fait de répondre avec colère ou d'avoir une attitude de colère, c'est de choisir la violence. Et la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, en aucun cas, dans aucune situation, la colère de l'homme va répondre et va être une solution de Dieu. La plupart du temps, la colère du monde, la colère de l'homme, lorsqu'elle se manifeste, lorsqu'elle est exprimée, elle apporte de la destruction et elle cause des dommages. Et donc, la colère mène à l'échec. Une incompréhension des Écritures. Ça, c'est important parce que Jésus venait et annonçait sa mort depuis un certain temps. Jésus préparait les disciples depuis un certain temps par rapport à sa mort et sa résurrection. Mais les disciples ne comprenaient pas. Il y a eu plusieurs enseignements, on l'a vu tout au cours de ces 50 quelques sessions, où est-ce qu'il y avait des moments donnés où est-ce que Jésus disait quelque chose et les disciples comprenaient un autre message complément de travers. Et ça, c'est important de le spécifier parce que dans la vie, dans ce moment-là, dans la vie des disciples, eh bien, l'incompréhension qu'ils avaient des Écritures ou qu'ils avaient des paroles de Jésus, eh bien, les a amenés aussi à l'échec. La peur qu'ils aient tous pris la fuite, qu'ils aient eu peur pour leur vie et qu'ils se sont mis à renier le Seigneur, eh bien également ça les a amenés à l'échec. L'immaturité spirituelle ou l'immaturité tout court, l'inconstance émotionnelle, Pierre avait des hauts et des bas. C'était un homme instable avec un caractère très instable, très compulsif. Et donc, avec un manque de sagesse spirituelle. Et ça, également, ça a amené de l'échec dans sa vie et le découragement. Découragement dans le fait que certains ont quitté le groupe, sont retournés et avaient le... sont pas retournés parce que Jésus, par la grâce de Dieu, les a récupérés, mais deux avaient tout simplement jeté l'éponge, dit, il n'y a plus rien à faire ici. On retourne dans notre patelin, on retourne dans notre ancienne vie. Il n'y a plus de Seigneur, il n'y a plus de Jésus, c'est fini. Et le découragement amène aussi une forme d'échec dans nos vies. Donc voilà ce qu'on peut ressortir de la vie des disciples, de ce qui a amené l'échec dans leur vie. Mais vous savez quoi? C'est ce qui amène également l'échec dans nos vies aujourd'hui. L'amour pour l'argent, la valorisation des biens matériels, d'avoir tous les biens, d'avoir de l'argent, et que ça surpasse l'amour pour Dieu, l'amour pour les bien-aimés, eh bien ça va nous amener à un échec. L'amour pour l'argent, c'est le début de tous les maux, donc de toutes les tristesses, de toutes les mauvaises choses, l'amour pour l'argent. Et donc, ça amène de l'échec dans nos vies. La colère, comme j'ai dit plus tôt, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, on ne peut pas faire un lien, ça va pas ensemble. Ça amène de l'échec dans nos vies. Une incompréhension des Écritures. Si on fait des choses sans comprendre les Écritures, sans avoir eu une base, avoir eu le fondement, sans avoir eu de l'enseignement, mais qu'on se lance à prêcher, on se lance à dire des choses, à vouloir servir ici et là, mais qu'on n'a pas de fondation de l'Écriture, c'est sûr qu'on va frapper un échec à un moment donné, et ça peut être fort. La peur qui normalement est un indice de manque de foi, de manque de conviction et même de manque d'amour. Parce que la Bible dit que l'amour chasse la peur. Donc, s'il y a de la peur, il y a quelque part aussi un manque d'amour. Et sans amour, je suis un échec. Paul le dit très clairement dans 1 Corinthiens chapitre 13 que... Je peux faire de grands sacrifices, et là je paraphrase, mais je peux faire de grands sacrifices, mais si j'ai pas l'amour, je suis rien, je suis un échec, j'ai échoué. Et donc la peur, ce sentiment, et on en a parlé il y a quelques mois en arrière sur l'angoisse, l'anxiété, la peur et toutes ces choses-là, parce que c'est des choses d'actualité, ce sont des sentiments, des émotions qui sont très, 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 très forts en ce moment-ci avec le confinement. Et donc la peur peut mener à l'échec dans notre vie. L'immaturité spirituelle, lorsque nous sommes inconstants dans notre marche avec Dieu, lorsqu'on ressemble plus à des chrétiens charnels, et ça aussi on en a parlé il y a quelques semaines en arrière, un chrétien charnel versus un chrétien spirituel, quelqu'un qui a été sauvé, mais qui continue à vivre selon la chair, qui continue à suivre et à faire les choses que font le monde. Et ça également, c'est un conflit interne, une lutte interne et une immaturité spirituelle qui va amener constamment de l'échec dans la vie du chrétien. Et finalement, le découragement. Découragement mène bien des fois à des mauvaises décisions. Il faut faire attention de prendre des décisions importantes lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes abattus. Ce n'est jamais le bon moment, la bonne condition d'esprit et d'âme pour prendre des décisions, pour faire des choix. Parce que bien des fois, lorsqu'on est découragé, on laisse tomber des choses qu'on ne devrait pas laisser tomber. On arrête de persévérer là où est-ce que Dieu avait une réponse pour nous, mais il fallait juste persévérer un petit peu plus. Donc le découragement également nous mène à une forme d'échec. Donc, on n'est pas bien différent des disciples il y a 2000 ans. Ce qui les a amenés à leur façon, à connaître l'échec, eh bien, ça s'applique pleinement à nous aujourd'hui. Et ce sont également des éléments pour lesquels il est important pour nous tous de faire attention et de porter attention sur ces choses et même de prier le Seigneur. Ben, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie? Comment est-ce que l'échec rentre dans ma vie? Comment est-ce que l'échec se manifeste dans ma vie, la défaite, et comment est-ce que, Seigneur, on peut changer ces choses-là? Dieu est un Dieu de processus de transformation, et donc c'est en plein dans son domaine. On peut lui faire confiance là-dessus, et nous avons tous du travail à faire à ce niveau-là. Ce qui m'amène à clarifier un point, et c'est un point qui est important. Peut-être certains l'ont déjà vu, en ont déjà parlé, mais je pense que c'est important de le clarifier aujourd'hui. Premièrement, c'est que l'échec est humain. On dit l'erreur est humaine. L'échec, dans le fond, est dans la nature humaine. C'est comme ça, et ça sera comme ça jusqu'au retour du Seigneur, lorsque nous serons avec lui pour l'éternité. Et je vous donne quelques versets qui confirment cela parce que, ben peut-être pour certains, ça va les convaincre. La parole de Dieu a cette utilité-là de convaincre. Parce que peut-être des gens pensent que, ben, je suis parfait, moi, je connais pas d'échec. Il y en a qui sont comme ça, qui sont super spirituels, hyper saints. Il y a rien à voir de mauvais dans leur vie et eux autres sont portés vers pointer les autres, mais que eux, non, eux autres, la sainteté, ils l'ont, eux autres sont dans la volonté de Dieu, ils sont comme ça avec le Seigneur Jésus, et puis là, ils se donnent le droit de questionner tout le monde, d'un peu de faire de la condescendance avec des bien-aimés. Clarifions une chose. L'échec est dans la nature humaine. Et peut-être que ces passages-là aussi vont vous aider pour parler à d'autres personnes, des personnes qui sont peut-être pas chrétiens, qu'eux autres, ils pensent qu'ils sont bien, qu'ils sont de bonnes personnes, donc qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur, qu'ils n'ont pas besoin de connaître Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Péché. Et je parle pas de pécher un poisson, là. L'acte de péché, qu'est-ce que ça veut dire foncièrement, à la base? C'est rater la cible. Rater la cible par rapport au plan de Dieu, rater la cible par rapport à la volonté de Dieu, rater la cible par rapport à la parole de Dieu. Donc c'est un échec. Et donc, car tous ont échoué et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché est un échec parce qu'on rate la cible par rapport à la volonté, le plan de Dieu, la parole de Dieu. Psaume chapitre 14, verset 3. Et là, j'ai bien fait attention de prendre autant des références dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, pour pas que les gens disent, ah, oh, mais ça tient pas parce que c'est pas solide, parce que on en parle juste dans le Nouveau Testament, on en parle juste dans l'Ancien Testament, mais là, dans la Nouvelle Alliance, c'est plus le cas parce que Jésus a pris tout l'échec humain sur sa vie, sur lui, donc nous avons plus de péché. Il y a des gens qui croient cela. Il y a des déviances chrétienne qui pense que il y a plus de péché, donc plus besoin de se repentir, de pardon, parce que Jésus dit que tout a été accompli, donc il y a plus de péché dans le monde. Et qu'on ne commet plus de péché. Bref. Psaume 14, verset 3 dit, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et là, il parle de tout le monde, de toute l'humanité. Donc, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Jérémie 17, 9, un verset quand même assez bien connu. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Par-dessus tout. Donc, tu peux avoir le meilleur raisonnement. Tu peux avoir le quotient intellectuel le plus élevé de l'histoire de l'humanité. Le cœur, ton cœur, par-dessus tout, sera tortueux et sera méchant. Qui peut le connaître? Rien à rajouter. Et Romains chapitre 7, verset 20, c'est Paul même qui dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et dans ce chapitre-là du verset 7, qui est très, très important, c'est un passage qui est clé. Au fait, les chapitres 5, 6, 7, 8 parlent beaucoup du péché, de la grâce et de la justification. Et c'est très important parce que ça va très profond, très personnel, et ça nous donne espoir dans notre condition humaine. Mais voilà que Paul lui-même dit, le mal que je veux pas le faire, je le fais. Et le bien que je veux faire, je finis par pas le faire. Et c'est un conflit qui est en moi. Et donc ça, c'est aussi de l'échec. C'est aussi être dans la défaite. Donc, quatre versets ici pour vous démontrer. Et peut-être que je convaincrai personne ici, et c'est correct, mais au moins, même pour vous, ça peut être utile dans des échanges que vous avez avec des non-chrétiens, des gens qui connaissent pas le Seigneur, parce que la plupart du monde pense qu'ils sont bien, qui sont bons, ce sont de bonnes personnes. Et ça, c'est un reproche même qu'on fait bien souvent à la chrétienté parce que on n'a pas ce message positif, on n'a pas ce message humaniste que l'être humain est bon, est foncièrement bon. La Bible nous dit que il est méchant et qu'il est mauvais et qu'il a besoin d'un sauveur pour le ramener sur le bon chemin. Ce qu'on dit également beaucoup, 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 et probablement même vous l'avez vous-même utilisé comme conseil à vos enfants ou à d'autres personnes, c'est écoute ton cœur. On le voit dans des émissions de télé, des films. Il y a souvent ce conseil-là qui revient dans des films et même dans des thérapies, dans tout ça, on dit écoute ton cœur, va avec ce que ton cœur te dit. C'est pas chrétien, c'est pas biblique. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ben, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, déjà là, c'est y aller dans cette avenue-là, c'est courir après plus de dangers. Et d'où l'importance de venir auprès du Seigneur. Parce que non, nous ne pouvons pas faire confiance dans notre cœur. Donc, l'échec est humain. L'erreur est humaine. Point final, c'est réglé. Voilà. Ça, c'est une partie de ce point-là. Mais l'autre partie, c'est que, OK, tu sais, on peut dire, c'est bien, alors j'accepte ma condition, j'accepte ma réalité. Et donc, le Seigneur aussi m'aime, donc lui aussi accepte ma réalité. Et donc, voilà, écoute, je vais continuer à commettre les mêmes erreurs, je vais continuer à pécher comme je péchais auparavant. Je veux dire, parce que de toute façon, Dieu me comprend, Dieu me connaît, Dieu sait exactement ce que je vis, où sont mes faiblesses. Et donc, si il m'aime tel que je suis, donc avec mes échecs de nature humaine, donc... Je peux continuer à vivre comme tel parce que de toute façon, le Seigneur me comprend. Ça, il faut également rectifier parce que cette vérité-là que l'échec est dans la nature humaine ne doit pas servir d'excuse pour pécher. D'aucune façon. C'est comme si, eh bien, on vise toujours à échouer. Dans d'autres mots, c'est ça. On ne vise jamais à atteindre la cible. On accepte notre réalité et donc dans le fond, dans toute notre vie va être un échec parce qu'on va se dire, je vais échouer. C'est comme ça que je suis né, c'est ma condition humaine, pécheresse, et donc je dois l'accepter et je dois vivre avec, et donc je m'élance là-dedans. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui visent continuellement l'échec. Et donc, quelqu'un qui vise continuellement l'échec, à la fin de sa vie, c'est quoi le résultat? Il n'y aura pas un trophée, il n'y aura pas une médaille, il y aura un constat. Malheureusement, un triste, triste constat. Avec énormément de regrets, un constat d'échec. Quelques versets pour nous aider également, qui supportent cette vérité-là. Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La parole de Dieu est en train de dire la grâce qui nous est donnée. C'est pas pour qu'on accepte notre condition de pécheur. C'est pas pour que le péché soit toléré dans notre vie. Non. La grâce abonde dans notre vie afin que nous ne vivions plus dans le péché. Donc, la grâce, elle est présente dans notre vie afin que nous, on vive plus dans l'échec. Et donc, c'est important de regarder la grâce avec ce nouveau regard, peut-être pour certains qui nous écoutent. Parce que je suis sûr que certains pensent que la grâce, c'est juste une deuxième opportunité ou une nouvelle opportunité que Dieu nous donne. Puis qu'il nous dit, ah, c'est pas grave, de toute façon, ma grâce est là, donc vas-y. Puis si demain tu refais la même, ah, ben, tu sais, c'est pas grave, parce que je t'aime, puis ma grâce abonde. Donc tu peux continuer dans ton chemin, dans ton cheminement, dans ton parcours, dans la vie. Mais ce qui est clair, c'est que Paul dit, écoute, est-ce qu'on va rester dans cet état-là? Est-ce qu'on va utiliser cette excuse? Loin de là. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre encore dans le péché. Et on l'a vu il y a quelques semaines dans un des messages que j'avais envoyé, j'avais partagé plutôt avec l'Église. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours pour remporter le prix. Je vis ma vie de façon à gagner. Donc, je sème la victoire dans ma vie. Je sème le perfectionnement dans ma vie. Je sème pas la défaite. Je sème pas l'échec. Donc, mon attitude, mon approche dans la vie est importante parce qu'elle va déterminer si je vais être à la fin un gagnant ou si je vais être un perdant. Mais ce qui est sûr, c'est que si moi je tolère librement, sans aucune responsabilité, l'échec et le péché dans ma vie, il n'y a rien d'autre qui va ressortir de ça. Il n'y a rien d'autre qui va avoir comme fruit autre que de la destruction, que de l'échec, que de la ruine. Donc, assurons-nous, bien-aimés. Oui, on comprend, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous des échecs. Je lisais un livre il y a quelques années du pasteur Jim Cimbala, qui est un pasteur à New York, pasteur de Brooklyn Tabernacle, je ne sais pas s'il est encore pasteur là. Et il parlait que lui vivait constamment avec un sentiment d'échec. Pas parce qu'il y avait une mauvaise estime de lui, pas parce qu'il connaissait pas l'écriture, les écritures, pas parce qu'il y avait un problème d'attitude. Non. C'était parce qu'il était conscient de sa nature humaine et de son imperfection, même dans les choses de Dieu, mais toute sa foi et toute sa dépendance était sur le Seigneur pour le permettre d'avancer et de courir pour remporter le prix. Donc, oui, nous pouvons avoir un sentiment d'échec à tous les jours, mais ça ne doit pas être ce qui nous définit. Ce n'est plus notre nature humaine qui nous définit. Ce qui nous définit maintenant, c'est Christ. Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est-à-dire, ce qui me définit, c'est Christ. Et qui est Christ? Christ est le conquérant. Christ est le victorieux. Celui qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable, qui est le tout-puissant. Voilà ma vie. Donc, je peux pas associer cela avec l'échec. Parce qu'il y a une nouvelle nature qui a pris naissance en moi, et c'est la nature de Dieu, la nature de Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'on comprend cela et qu'on l'accepte, eh bien, ça n'a pas d'autre choix que également nous donner une nouvelle perspective par rapport à la grâce de Dieu. Et à nous montrer ou nous présenter, dans le fond, que la grâce de Dieu a un rôle qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que la grâce de Dieu, pour la plupart, on dit, bon, la grâce de Dieu a été manifestée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et donc c'est la solution au péché, à l'échec humain. Oui, c'est vrai. Certains pensent que la grâce est une forme de pardon automatique. Donc, tu pèches, t'es immédiatement pardonné parce que la grâce de Dieu est là, donc tu pèches et automatiquement le pardon vient tout de suite pour effacer le péché. D'autres disent, ben, ils pensent que c'est une permission pour pécher. D'autres pensent que la grâce, dans le fond, est une nouvelle opportunité de faire les choses selon Dieu. Donc, à chaque fois que il y a une désobéissance, à chaque fois qu'on suit pas la voie de Dieu, eh bien, la grâce vient nous donner une nouvelle opportunité de faire les choses selon Dieu. Et bien, certains qui sont très, 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 avec les définitions, ben, vont dire que la grâce est une faveur imméritée de Dieu de façon générale. Okay. Mais il y a quelque chose d'important avec la grâce qui est en lien avec l'échec. C'est que la grâce de Dieu est aussi un pédagogue, c'est-à-dire c'est aussi un enseignant. La grâce a un rôle d'enseignement dans notre vie. Et ça, on le voit dans Tite, au chapitre 2, versets 11 à 13, et nous lisons, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ça, c'est clair. Et bien aimé, c'est important parce que bien des fois, notre message et le développement de notre foi s'arrêtent à cette phrase-là. Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On s'arrête là. Notre prédication s'arrête là. Notre enseignement de la grâce s'arrête là. C'est la grâce de Dieu pour le salut des hommes. Tu as péché, la grâce de Dieu s'applique. Tu es pécheur, la grâce de Dieu est là. Tu as commis une erreur, la grâce de Dieu est là. Donc, elle a été manifestée en Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce. Et donc, on applique la grâce seulement au salut. Mais comprenez une chose. Ici même, il le dit, c'est la source du salut. La grâce de Dieu est à la source. Mais il n'y a pas juste le salut qui émane de cette source-là. Il y a d'autres choses. Et cette autre chose-là est importante pour nous face à nos échecs parce que ça va nous aider à aller de l'avant, surtout lorsqu'on veut servir le Seigneur et qu'on est dans une responsabilité de service, soit dans l'Église ou devant Dieu ou face à la communauté. Donc, aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin avec la grâce de Dieu. C'est pas juste une source, c'est pas juste pour le salut, là. La grâce de Dieu est aussi pour autre chose. Et on suit. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Elle nous enseigne. Et je suis vraiment allé voir dans l'origine pour être sûr que c'est bien ça que la Bible nous dit, que la grâce de Dieu nous enseigne. Et on retrouve le terme grec paideo, paideo, qui veut dire enseigner et même châtier. Donc oui, il y a un rôle associé à la grâce qui est très peu parlé, très peu enseigné, mais qui est d'une importance capitale pour notre vie. Capitale pour notre vie. Et pour la qualité de vie, qualité de foi que nous allons avoir. Qu'est-ce que le passage ici nous dit? Il nous dit qu'il nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Premier élément, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. En d'autres mots, elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui nous tire vers l'échec. Elle nous enseigne à éviter l'échec, à ne pas tomber dans l'échec à chaque fois, à chaque jour, répétitivement, sur les mêmes affaires. Elle nous enseigne, dans un deuxième lieu, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et donc, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent, donc actuellement, dans ce qui plaît à Dieu, mais aussi dans ce qui a la faveur de Dieu et donc ce qui nous met sur le chemin de la perfection et dans la victoire. Et troisièmement, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, elle dit, il y a une attente et donc il y a une attitude à avoir vis-à-vis ce qui s'en vient, c'est-à-dire la gloire de Dieu, la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, en d'autres mots, la grâce nous enseigne à quitter la voie de l'échec. La grâce nous enseigne à courir sur la voie de la perfection. La grâce, dans le fond, nous aide à faire ce changement de direction dans notre vie, à faire ce changement d'attitude aussi dans notre vie. D'une attitude de perdant à une attitude de gagnant, c'est tout un monde, hein, entre ces deux attitudes. Tout comme la voie de l'échec, comme la voie de la perfection, c'est énormément de différences et la grâce de Dieu peut nous permettre de changer d'attitude, de changer de cœur, de changer de pensée pour quitter la voie de l'échec et s'élancer sur la voie de l'excellence, de la perfection. Et la grâce nous enseigne à conserver cette attitude. Lorsqu'il dit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire à la fin de toute chose, c'est Dieu qui gagne. À la fin de l'histoire de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus qui est gagnant. Et tous ceux qui seront avec lui également. Et donc la grâce de Dieu nous enseigne à aujourd'hui conserver une attitude de gagnant, de courir pour remporter le prix. Donc la grâce de Dieu, c'est pas juste, ah, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi, merci pour ta grâce. Ou Seigneur, il y a telle situation, tel problème, il y a la maladie, Seigneur, manifeste ta grâce. Donc, mettons, et cette faveur immérité envers telle ou telle personne ou envers moi dans telle situation. Non. Elle est beaucoup plus que ça. La grâce de Dieu se manifeste même dans les ombres, les heures les plus sombres de notre échec, de notre tragédie humaine. Et à partir de ce point-là où est-ce que nous sommes, elle veut nous enseigner. Elle veut nous enseigner. Maintenant, comment est-ce que cet enseignement va se faire? Eh bien, cet enseignement-là va se faire dans la sagesse de Dieu selon la vie de tous et chacun. Elle ne va pas se manifester de la même façon envers un frère ou envers une sœur. Il faut déjà à la base éviter toute comparaison. Mais une chose doit être claire, c'est que la grâce de Dieu veut et va nous enseigner à renoncer à l'échec et à se lancer, à vivre, à expérimenter la vie en Dieu à son maximum et à courir avec une attitude gagnante. La grâce de Dieu fait ce travail. Je pourrais pas vous le mettre dans une équation, dans une formule mathématique de comment est-ce que la grâce de Dieu le fait. Elle le fait. Elle le fait dans votre vie. Mais cette œuvre de la grâce ne sera pas la même que votre bien-aimé, ne sera pas la même que votre frère ou que votre sœur. C'est quelque chose qui est très personnel, qui se vit très, très personnellement, mais et qu'on peut en témoigner par la suite, le partager, et c'est une source d'encouragement dans la foi des autres chrétiens, des autres frères et sœurs. Mais on peut pas la comparer. Et donc, la grâce de Dieu a ce rôle-là dans nos vies. Donc, si on retourne sur les disciples, les autres qui étaient à Gethsémani, ils sont tous partis, ils ont tous abandonné, ils ont renié, ils ont quitté, découragé, ils ont mal compris les Écritures. Et ils ont eu différents échecs et la grâce de Dieu s'est manifestée différemment aux disciples. Mais ils ont tous vécu une transformation à travers elle. Il y a qui disent que c'est vraiment à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit les a remplis, qu'ils ont eu une transformation. Oui. Mais cette transformation-là a commencé au moment où la grâce de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Lorsque Jésus, après la résurrection, est allé vers eux. Est allé vers eux. C'est là où il y a eu un processus de transformation de leur vie à travers la grâce de Dieu. Et donc la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été manifestée à la croix par sa mort et par la résurrection, c'est cette grâce-là qui change nos vies. C'est cette grâce qui nous sauve, mais c'est cette grâce-là également, cette puissance dans l'amour de Dieu qui nous transforme. Qui nous transforme. La grâce de Dieu repose sur la puissance de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où est-ce que nous vivons une réelle transformation. Lorsque nous prenons conscience, lorsque nous avons cette révélation de la grâce de Dieu, de sa puissance, de sa capacité à nous enseigner et aussi à nous transformer. Et lorsqu'on regarde la Bible, bien-aimé, lorsqu'on voit les histoires d'Abraham, de Jacob, de Moïse, de David, et on pourrait en nommer bien d'autres, eh bien, elles nous parlent tout simplement de la tragédie humaine à cause du péché, de l'échec humain, mais aussi du rôle que la grâce de Dieu a exercé dans leur vie, qui a servi pour le plan de Dieu, pour leur vie, mais aussi pour l'arrivée du Messie beaucoup plus tard. Et donc, on n'est pas bien différent d'eux. On n'est vraiment pas aussi différent. Nous aussi, nous avons des échecs. Nous aussi, nous vivons des heures sombres à cause de défaites et de tragédies causée par la méchanceté de notre cœur. Mais la grâce de Dieu n'est jamais loin. Et cette grâce de Dieu qui veut jouer un rôle, pas juste d'apaiser notre conscience ou de nous faire sentir bien, non. Il y a un travail d'enseignement, de préparation, de transformation que la grâce de Dieu veut faire dans nos vies. Et ça, c'est important lorsqu'on veut servir. Lorsqu'on est en service avec Dieu, c'est important de ne pas servir Dieu avec culpabilité. La grâce de Dieu doit être forte et pas juste une espèce de baume ou de Tylenol qui va s'appliquer dans notre vie, qu'on va plus sentir dans le fond le dommage causé par le péché. Non. La grâce de Dieu nous transforme et nous enseigne à quitter, à nous séparer du péché, à nous séparer du monde, à nous attacher à Dieu, à nous attacher à ce qui est bon, à ce qui est parfait, à ce qui est agréable, et avoir une attitude gagnante ici sur terre, jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et donc toute personne qui désire servir Dieu efficacement, et j'ai bien dit efficacement parce qu'on peut servir Dieu d'une mauvaise façon, mais toute personne qui veut bien servir Dieu doit comprendre que cette grâce va jouer différents rôles dans sa vie. Puis surtout, surtout en ce qui touche notre nature humaine, parce que nous sommes insuffisants, nous sommes incapables, nous sommes incompétents dans notre propre force humaine de pouvoir accomplir le plan de Dieu, même de prêcher la parole. Nous en sommes incapables, disqualifiés et incompétents. Nous avons besoin que la grâce de Dieu joue complètement et pleinement son rôle dans notre vie. Et je vous encourage, bien-aimés, à avoir cette prière, à demander à Dieu que face à votre échec, la grâce de Dieu puisse se manifester, mais plus juste en superficie pour que vous vous sentiez bien, pour que votre conscience soit renouvelée. Non. Oui, c'est bien, mais il y a plus profond que ça. La grâce de Dieu veut nous enseigner, veut t'enseigner, veut te préparer, veut te transformer. Donc, en résumé, ce qui amène les êtres humains à l'échec, et ce qu'on a pu énumérer un petit peu avec les disciples dans ces heures sombres qui ont suivi l'arrestation de Jésus à Gethsémani, bien, ça n'a pas changé en 2000 ans. L'amour pour l'argent, la peur, la colère, l'incompréhension des Écritures, l'immaturité spirituelle, le découragement, toutes ces choses-là ont conduit les disciples à l'échec et nous conduisent également aussi à la même destination. L'échec est dans la nature humaine, mais il ne faut pas utiliser cela comme justificatif pour pécher. Je pense que la parole de Dieu, elle est claire là-dessus, parce qu'en d'autres mots, ça veut dire que on vise l'échec dans notre vie. C'est ça. C'est peut-être ça qu'il faut réaliser, que peut-être des gens aujourd'hui le réalisent pas. C'est qu'il y a des gens qui visent continuellement à échouer. Triste. La grâce de Dieu, manifestée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, est la solution à l'échec humain. Mais elle a un rôle d'enseignant, de pédagogue. La grâce nous enseigne à quitter la voie de l'échec. La grâce nous enseigne à courir sur la voie de l'excellence, de la perfection. Et elle nous enseigne également à conserver une attitude de gagnant, de persévérer jusqu'à la fin. Et toute personne qui désire servir Dieu efficacement doit comprendre que la grâce de Dieu jouera différents rôles dans sa vie et se manifestera de différentes façons dans sa vie. Toujours. Et surtout en lien avec la nature humaine. Je ne sais pas si présentement tu es dans l'échec, si tu vis des moments de défaite, si tu es au bord même de prendre des décisions qui vont t'amener vers l'échec. Prends le temps de prier ce soir. Prends le temps de demander que la grâce de Dieu se révèle et se manifeste dans ta vie comme un enseignant qui t'ouvre les yeux. Peut-être que ce sont des conditions de santé, des conditions physiques qui t'accablent. Également, peut prier comment est-ce que la grâce de Dieu est à l'œuvre dans ta vie, dans ces moments de pression, de difficulté, d'inquiétude. La grâce de Dieu est là, bien-aimé. La grâce de Dieu est là. Dieu et sa grâce sont bien présents dans ta vie et dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il n'y a pas à avoir de doute là-dessus. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il est fidèle, il est juste. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laissera jamais. Il ne sommeille pas, il ne nous oublie pas. Il est comme l'ombre à notre main droite. Il est toujours veillant, il est toujours éveillé et attentif. Voilà notre Dieu de grâce. Et donc, nous pouvons avoir pleinement confiance en lui et lui demander en toute simplicité, en toute honnêteté, que sa grâce vienne faire son œuvre dans nos vies, surtout en lien avec la nature humaine, surtout aussi avec notre nature humaine, notre échec, qui est aussi humain. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour le partage de ta parole. Tu es bon, fidèle et merveilleux, Seigneur. Ta grâce va au-delà, Seigneur, de notre entendement. Nous avons limité, Seigneur, la portée de ta grâce à bien des égards, Seigneur. Et Seigneur, on te demande pardon pour cela. Prends toute la place, Seigneur, et que ta grâce prenne toute la place dans nos vies. Y compris, Seigneur, dans notre nature humaine, dans les aspects de cette nature qui est faible, insuffisante, Seigneur, qui n'a pas toute la compétence devant toi. Merci, Seigneur, d'œuvrer, de faire ton travail dans nos vies, d'opérer ce changement-là. Et que ta grâce serve de pédagogue, d'enseignement, pour renoncer à l'échec, pour se lancer vers l'excellence et pour avoir une attitude, Seigneur, c'est-à-dire une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'être qui t'est agréable à toi. Bénis mes bien-aimés, bénis chaque frère et sœur, Seigneur, que ta grâce se manifeste dans leur vie, Seigneur, et qu'elle joue les rôles qu'elle a à jouer dans leur vie. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce partage a été édifiant pour vous, comme il a été pour moi. Il y a espoir avec la grâce de Dieu. Il y a espoir. Merci au Seigneur pour sa grâce. Mais il y a également un enseignement. Il y a une progression, il y a une transformation que le Seigneur va opérer dans nos vies à travers sa grâce. Donc, je vous dis bon restant de journée, de soirée, demain matin 8h30, la bénédiction matinale avec le pasteur Florent, les inscriptions, n'oubliez pas, vos téléphones, numéro de l'église ou par courriel. Attendez bien sûr aussi d'avoir une confirmation de votre inscription pour dimanche. Et je vous dis shalom, on se voit dimanche, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bye bye.